Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Hello, are you Annie Stern from Czechoslovakia?
Bonjour, êtes-vous Annie Stern de Tchécoslovaquie?
Then I have a parcel from your mother for you.
J'ai un paquet pour vous, de la part de votre mère. New York, les années 70, Annie Stern reçoit un coup de téléphone d'un inconnu. Il lui remettra un petit carnet de feuillets jaunis, cousus ensemble, enveloppés dans du papier Kraft. À l'intérieur de ce cahier fragile, des recettes de cuisine que Mina Pechter, la mère d'Annie Stern, a rédigées avant sa mort, alors qu'elle était internée dans le camp de Térézine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Baisers de boutons de rose, gâteaux de bonne santé. La femme qui couche sur le papier les détails de la fabrication de petits plats et ses bons trucs de cuisinière, c'est une femme qui a faim. Internée dans le camp de Térézine, en 1942, Mina Pechter, tout comme ses co-détenus, rassemble ses forces pour accomplir un dernier geste d'amour vis-à-vis de sa fille, Annie, qui a quitté la Tchécoslovaquie à temps pour la Palestine. Écrire des recettes de cuisine à Térézine, le paradoxe de cette réalité est poignant. C'est aussi ce qui a touché la documentariste française Anne Georget lorsqu'elle a découvert l'histoire de Mina et d'Annie.
Quand j'ai lu ces lignes et cette juxtaposition de mots Térézine, carnet de cuisine, enfin il y a quelque chose de très choquant. Petit à petit, on réfléchit, on imagine cette femme qui était une grand-mère et on l'imagine avec discutant avec d'autres femmes de son âge, de la vie normale, de ce foyer qu'elle tenait, de ses repas de fête, de ce qu'elle aimait faire pour son petit-fils. Et petit à petit, on les imagine assises dans des conditions pas possibles, effectivement mourant de faim, parce que quand j'ai commencé à chercher un petit peu la documentation, je me suis aperçue que bon, il y avait toute une hiérarchie à Térézine, comme il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde, le Conseil juif des anciens avait pris la décision consciente de favoriser plutôt les travailleurs de force et les enfants qui avaient le plus de chance de sortir de cet enfer et de donner un peu moins de nourriture aux personnes âgées qui quelque part n'avaient pas de valeur de travail, etc., etc. Donc c'était une décision terrible à prendre, mais bon voilà, ils l'ont prise en conscience et donc il y a beaucoup de littérature sur le fait que les personnes âgées étaient particulièrement démunies dans le camp de Térézine. Donc d'imaginer cette grand-mère qui mourait de faim, qui devait chercher dans les poubelles des épluchures de pommes de terre pour se nourrir et dans le même temps qui se querellait avec ses amis ou ses compagnes de dortoir pour savoir si l'une mettait de la poudre de noisette, l'autre de la poudre d'amande dans des gâteaux et comment elle faisait le strudel et comment elle faisait le goulash et comment elle faisait si c'était quelque chose de bouleversant.
En 2008, Anne Georget a réalisé un documentaire, Les recettes de Mina, qui retrace l'odyssée des carnets de Mina Pechter. En 1944, Mina sent que c'est la fin. À Térézine, elle confie alors ce recueil de recettes à un antiquaire qu'elle connaissait avant la guerre et qu'elle charge de transmettre à sa fille, sans même savoir si celui-ci survivra à l'horreur. Anne Georget.
Baxbaum a survécu à Térézine, elle pouvait pas voyager. Et puis un jour, il y a un visiteur qui est passé par là, ça devait être assez rare, et il a dit, ben voilà, j'ai fait une promesse, est-ce que vous pouvez m'aider à la tenir? Est-ce que vous pouvez bien prendre ce carnet et aller en Israël et voir si vous trouvez cette fameuse Annie Stern? Grosso modo, le carnet, il a mis plus d'une vingtaine d'années à lui parvenir. En Israël, le voyageur donc qui s'était chargé du paquet a posé des questions. On lui a dit, ah mais oui, bien sûr, elle habitait à Haïfa, mais maintenant elle est partie aux États-Unis. Donc là, il est allé à New York à une réunion de juifs tchèques qui ont dit, ah mais oui, bien sûr, Annie Stern, elle habite à tel endroit, et c'est là que effectivement le téléphone a sonné chez Annie et qu'on lui a dit vous êtes bien Annie Stern de Tchécoslovaquie. Pour Annie, je pense que ça a été un choc terrible, d'abord parce que elle s'était sans doute pas remise de la culpabilité d'avoir laissé Mina derrière elle au moment où elle a quitté la Tchécoslovaquie dans les vraiment les tout derniers jours où c'était encore possible pour partir en Palestine. Mais Mina ne voulait pas partir. Elle disait on n'assigne pas les vieux arbres, rien ne peut nous arriver, on n'est plus dans le coup, on fait de tort à personne, on fait d'ombre à personne. Donc Mina n'a absolument pas voulu partir. Je pense que ça déjà ça a été très dur pour Annie. Elle n'avait pas idée de ce qui se passait pendant qu'elle était en Palestine. Elle ne l'a appris qu'après la guerre. Donc je pense que tout ça faisait que c'était un sujet très très douloureux. Et tout d'un coup, sans prévenir, le téléphone qui sonne et qui vous annonce qu'il y a un paquet qui arrive, elle le dit à un moment donné, elle dit « Pour moi, c'était une main qui sortait de la tombe. Quoi. C'était vraiment difficile à affronter. Elle n'a pas pu l'ouvrir pendant très longtemps, ce paquet. Puis ensuite, elle l'a caché dans sa bibliothèque pour le protéger, pour qu'il soit là, pas loin. Mais comme quelque chose vraiment d'enfoui au fond de son cœur.
Tellement enfoui qu'Annie Stern ne le ressortira que dans les années 90, quelques années avant sa mort, pour le montrer à une amie qui la poussera à le publier. C'est Bianca Braun, une autre femme originaire de Tchécoslovaquie qui avait survécu à Térézine, qui se chargera de la traduction. En 1996, un peu après la disparition d'Annie, les recettes de Mina sortent aux États-Unis. En France aussi, l'histoire des carnets ainsi qu'une sélection de ses recettes a été publiée aux éditions du Seuil par Anne Georget et sa compagne de route dans ce projet, l'illustratrice Elsie Herberstein. Dans l'ouvrage, tout comme dans le documentaire, celle-ci a prêté son coup de crayon pour la représentation des gestes de la cuisine et des recettes. Elsie Herberstein.
C'est Anne qui a pensé au dessin parce que finalement filmer ses recettes, ça lui paraissait un petit peu brut et puis inadéquat parce que c'est pas une émission de cuisine et ce sont pas des recettes qu'on peut filmer comme n'importe quelle recette qu'on peut trouver dans un livre de cuisine habituel. Et donc elle se demandait comment les évoquer autrement et elle a pensé au dessin. Et elle connaissait déjà mon travail, on se connaissait depuis quelques années et elle m'a appelé un jour pour me raconter l'histoire de Mina et en me disant bah voilà, mon idée ce serait que tu nous accompagnes sur le tournage et que tu au moment où les différents témoins du film comme Bianca la traductrice ou David ou les cousins de David en Israël ou d'autres protagonistes du film documentaire, au moment où il réalise ses recettes sous nos yeux, la caméra, au lieu d'être sur la personne, est sur la feuille de papier et on voit apparaître d'abord de manière quasiment abstraite des lignes dont on ne sait pas trop ce qu'elles vont donner, des taches de couleur, et au fur et à mesure on voit tous les gestes qui composent la recette. C'est-à-dire que moi je dessinais vraiment sur le vif, très vite puisqu'il fallait que je suive les gestes qui se faisaient sous mes yeux au fur et à mesure. Et donc on voit apparaître le dessin et le dessin crée à la fois c'est vraiment un liant, en tous les cas dans le film, et ça a cette valeur un petit peu aussi émotionnelle, ça communique cette tendresse, et puis aussi un petit peu comme ça un passage aisé entre le passé et le présent.
Elsie Herberstein a ainsi travaillé au crayon et à l'aquarelle, et la légèreté du trait, l'aspect fluide des couleurs de l'aquarelle, plonge le spectateur ou le lecteur comme dans un livre d'images d'antan, un album suranné, comme un retour dans l'enfance. Et l'enfance, ce sont aussi des odeurs, des goûts. Les recettes de Mina, c'est une certaine saveur de l'Europe centrale, comme le concède Elsie Herberstein, qui est d'origine autrichienne.
Par exemple, quand Bianca s'est mise à faire le gâteau au pavot, moi, mes deux grands-mères viennent d'une région où on cultive le pavot qui est près de la frontière tchèque, qui s'appelle le Waldviertel, et tout de suite, il y a ces saveurs qui sont remontées, et puis j'avais vraiment une proximité et une complicité très forte, que ce soit avec Bianca, ou avec David aussi, le petit-fils de Mina, quand on était à Washington, parce que on parlait de ça, et on pouvait parler de ça pendant des heures, de ces saveurs d'enfance, de ces ambiances aussi, qui en Europe centrale, qui sont quand même très particulières, et ça nous rappelait tout ça, même si on n'a pas du tout le même âge. Finalement, on parlait de choses qu'on connaissait bien et qui nous rapprochaient beaucoup. C'était vraiment dans une bulle qui était quand même, c'était notre petite Madeleine à nous. C'est strudel, c'est gâteau au pavot, c'est caramel de Baden, enfin, moi c'est toute mon enfance aussi, donc c'est soupe. Moi j'aime beaucoup quand David parle de, il dit qu'il aime tellement les soupes qu'on les sert en dernier, parce que sinon il ne mangerait que ça, donc moi les soupes c'est À chaque fois que je vais en Autriche, on mange beaucoup plus de soupe qu'en France, et puis avec toutes ces boulettes à l'intérieur, ces bouillons, enfin, pour moi, c'est totalement relié à ma mère ou ma grand-mère.
L'histoire de Mina Pechter et de ses recettes de cuisine à travers les années bien après sa disparition, c'est donc aussi l'histoire de femmes. Annie Stern, sa fille, celle des deux femmes qui ont aidé à la publication en anglais de ce recueil, puis enfin celle d'Anne Georget et d'Elsie Herberstein. C'est l'histoire de la transmission générationnelle de certains savoirs des mères à leurs filles, du don de soi. L'histoire d'une des plus primaires et des plus douces preuves d'amour entre les êtres, la nourriture. Les mères nourrissent leurs enfants pour les faire vivre, les voir grandir, leur apporter aussi de la joie. Et Mina Pechter, au seuil d'une mort certaine, a ainsi voulu témoigner de son amour pour sa fille et aussi pour son petit-fils, David, Anne Georget.
C'était une sorte de testament, elle a écrit ce recueil de recettes pour sa fille et comme c'était quelqu'un qui était, je crois, assez cultivé, qui écrivait par ailleurs des poèmes, des lettres, etc., je pense que le fait qu'elle ait choisi de mettre un peu son dernier souffle et ses dernières forces dans la rédaction de ses recettes, moi, ce que j'en comprends, c'est que on dit beaucoup de choses de qui on est et de qui on aime en écrivant des recettes de cuisine. Ça peut sembler comme ça assez trivial au premier abord. On se dit, oh, des recettes de cuisine, c'est un peu des histoires de bonnes femmes. Au bout du compte, quand on réfléchit bien, et spécialement écrites dans les circonstances dans lesquelles Mina les a écrites, je crois que c'est quelque chose d'une grande profondeur et d'une immense sincérité. C'était à la fois la mémoire des jours heureux, des jours normaux. C'est pas quelque chose où finalement elle se complaît sur son malheur, sur sa faim, etc. C'est tourné vers la vie.
Mina Pechter avait le visage des belles grand-mères, aimantes et nourricières, enveloppantes et tendres, de celles qui accompagnent l'acte de nourrir de quelques conseils pratiques. À son petit-fils David, elle apprendra que les fameux caramels de Baden ne se mangent pas en entier et d'un coup. On en prend une moitié, on en garde l'autre moitié pour les amis ou la famille, ou le lendemain, on coupe en deux le morceau restant et on savoure longtemps. Une leçon de goût qu'on oublie parfois aujourd'hui dans la vitesse du quotidien. Le documentaire d'Anne Georget s'achève sur une scène touchante entre David Stern et son propre petit-fils. Elsie Herberstein nous raconte.
Quand on voit David, c'était la première fois qu'il lui parlait de sa grand-mère. Ça s'est improvisé comme ça, parce que Anne est revenue à un moment où ce petit-fils était en visite chez eux, chez ses grands-parents qui le gardaient. Et du coup, il s'est dit, je vais lui faire goûter ses caramels et puis je vais lui raconter cette histoire. Moi, ça m'a beaucoup ému aussi, le fait que cette transmission continue. Cette histoire de famille qui finalement a, au lieu de s'oublier, renaît comme ça des années après et peut finalement prendre corps chez un tout petit être à qui il va raconter un peu comme un conte.
Et la transmission va au-delà. Anne Georget et Elsie Herberstein, toutes deux, ont évidemment testé et goûté les recettes de Mina. On les écoute toutes les deux.
J'ai jeté mon dévolu sur les caramels de Baden, qui est un peu la petite ritournelle qui rythme le film, puisque c'était vraiment la recette préférée de David.
Alors j'aime beaucoup faire le gâteau au pavot. J'ai essayé les Butterkindeln, qui sont des petits croissants dans lesquels il y a une farce avec des noisettes et du jus d'orange, des zestes d'orange. Je ne connaissais pas cette recette, donc ça j'ai innové. Bon, sinon il y a évidemment le gâteau de bonne santé, il y a les baisers de boutons de rose que j'ai essayé aussi, que je ne connaissais pas. Et puis parce que je trouve que le mot est tellement poétique, tellement... Une des choses qui m'ont frappée aussi la première fois que j'ai lu les recettes, c'est le fait que les titres soient aussi décalés et aussi forts. Je veux dire, le gâteau du marié ou gâteau de bonne santé ou baiser de boutons de rose, c'est quand même... Enfin, c'est quelque chose qui prend tout de suite au cœur, je trouve. On sait où et comment elles ont été écrites, ces recettes.
C'est ainsi que s'achève la rubrique Culture sans frontières qui était consacrée aujourd'hui à l'histoire bouleversante de Mina Pechter et de sa fille Annie. Dans cette rubrique, vous avez entendu la réalisatrice française Anne Georget qui a réalisé un documentaire intitulé Les recettes de Mina et également l'illustratrice Elsie Herberstein. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.